Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui est flexitarien depuis un moment et qui vient de m'annoncer un off qu'il a également devenu climatarien. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous. Ouais, bon, climatarien à Paris, c'est un peu compliqué quand même.
Tu nous raconteras ça tout à l'heure. Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler des climatariens, du score carbone et de la passion des Français par les œufs, des Ducasse qui quittent les plats Athénées, d'une nouvelle série sur Netflix et d'un compte Twitter qui propose des repas à 1 euro. On commence tout de suite avec un article sur une nouvelle catégorie des consommateurs, c'est sur The New York Times, The Rise of the Climatarians, la montée en puissance des climatariens. Olivier, explique-moi, c'est quoi cette histoire des climatariens ?
A priori, c'est un terme qui est apparu dans un article du New York Times pour la première fois en 2015.
Alors,
j'ai pas retrouvé l'article original.
Okay.
Je cherche. Et en gros, c'est des consommateurs qui mangent des aliments en tenant compte de leur empreinte carbone et de leur niveau d'émission.
Très bien.
Donc, ils sont pas forcément végétariens, hein, mais ils vont privilégier les fruits et légumes de saison qui sont produits dans leur région.
Mmh.
Au niveau de la viande, ils vont éviter la viande qui provient d'élevage industriel et ils vont surtout éviter le bœuf qui a un mauvais score
tout
carbone.
À fait. Tout à fait.
Et du coup, ils vont privilégier plutôt le poulet par rapport au bœuf. Ils vont chercher des ingrédients locaux qui ont forcément une empreinte carbone plus faible parce que le transport est moins important, quoi.
C'est très intéressant ce que tu évoques par rapport à la viande bovine, en fait, parce que toutes les viandes n'ont pas les mêmes empreintes carbone. Selon un article du Monde, on estime qu'un kilo des viandes bovines équivaut à une émission des 27 kilos des gaz à effet de serre, contre 6,9 kilos pour les poulets. Donc 4 fois plus en fait pour les bœufs.
Ouais.
En plus de la différence en termes d'émissions des gaz à effet de serre, la production des viandes nécessite des quantités différentes d'eau selon les animaux élevés. Par exemple, en élevage industriel, on parle évidemment d'une moyenne, hein, la production d'un kilo de bœuf absorbe par exemple 13 500 litres d'eau. Bien plus que pour les porcs et les poulets, autour des 4000 litres. Quoi.
Oui, et puis le poulet, c'est quand même la viande qui progresse le plus un peu partout dans le monde, hein, finalement.
Oui.
Donc,
et en plus, c'est bon.
C'est très bon, le poulet, moi j'aime beaucoup. Et finalement, pour faire leur choix, ces consommateurs climatariens, ils peuvent s'appuyer d'ores et déjà sur des applis qui ont été conçues spécialement pour eux.
Ah.
Hein. J'en ai trouvé une dans l'article qui s'appelle Curie. Qui propose des recettes de saison en fonction du pays où on habite.
D'accord.
Et aux États-Unis, on a les chaînes de restauration qu'on appelle fast casual, comme Just Salad ou Chipotle, qui marquent leur menu en fonction de... Tu peux dire, voilà, je veux un menu spécial climatarien.
Ah.
Quand tu vas sur le site, que tu cliques,
avec
tu vois...
Avec peu d'impact.
Voilà.
D'accord.
Tu peux choisir ton menu en fonction de ça.
Sympa, il y a bientôt McDo qui va s'y mettre aussi probablement.
Probablement.
J'ai rigolé avec toi au début du podcast, Olivier, mais j'essaye moi-même d'être les plus climatariens possible, évidemment. Mais ce n'est pas toujours évident d'avoir accès à toutes les informations nécessaires pour calculer l'empreinte carbone. L'empreinte carbone des aliments que l'on mange dépendait beaucoup de paramètres, comme les modes de production, le transport, mais aussi les stockages et même l'emballage. Être climatarien, c'est prendre le temps d'aller chercher ces infos pour faire des choix plus écologique. Et c'est pas toujours évident d'arbitrer entre différents produits. Par exemple, entre une orange bio d'Espagne et une orange française issue de l'agriculture conventionnelle, laquelle a moins d'impact pour la planète ?
Ouais, c'est sûr.
C'est difficile à dire.
Et pour la viande, c'est pareil. Hein. Il y a des études qui montrent, par exemple, que l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande a une meilleure empreinte carbone que de l'agneau qui est produit en France.
Ah, et comment ça s'explique, ça ?
Parce que là-bas, ils pâturent enfin, c'est la verdure, ils mangent de l'herbe et tout ça.
Okay.
Tout ça.
Et les transports ?
Et il y a le transport, mais le transport, c'est qu'une partie du coût. Et j'avais trouvé une étude là-dessus.
Il faut avoir un PhD aujourd'hui.
C'est compliqué, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on a même des marques qui se disent respectueuses du climat. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans la rue ces derniers temps, il y a la marque Alpro de notre ami Guillaume Millet qui communique communiquer justement là-dessus sur le CO2 et tout ça. Donc on voit, ça arrive un peu en France.
Il y a un acteur de la food tech, Foodchehi, qui prend énormément la parole en fait par rapport à ça.
Et aux États-Unis, il y a une marque qui s'appelle Moonshot qui fabrique cette fois des crackers qui sont réalisés à partir d'ingrédients qui sont cultivés de manière régénérative, qui met en avant son bilan carbone neutre. Hein, quand tu vas sur le site, c'est marqué. Et l'entreprise, elle a aussi lancé un logiciel de durabilité, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle Planète FWD, pour aider les autres entreprises alimentaires à calculer leur propre impact environnemental pour tous leurs produits.
Intéressant. Et justement, Olivier, je profite pour faire la transition car les calculs et l'étiquetage de l'impact écologique est d'ailleurs les sujets de notre prochain article.
Oui, en fait, cette semaine, j'ai trouvé plusieurs articles sur ce thème-là. Hein, donc, ça me semblait intéressant d'en parler parce
tout
que c'est probablement des choses qui vont arriver dans quelques années ou même quelques mois. Hein.
Je pense qui sont déjà là, en fait. C'est ça qu'on voit dans l'article qui est apparu sur les Food Navigator. Carbon score is the next big thing. Le score carbone est la prochaine grande tendance. Alors, Olivier, c'est encore un nouveau label dans la bouffe, en fait.
Ouais, voilà, c'est des experts qui étaient réunis par Food Bites lors d'une table ronde sur la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Et selon un des experts qui était présent, l'étiquetage carbone pour les aliments et les boissons, il pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu.
D'accord.
Et pourrait même avoir beaucoup plus d'influence sur les consommateurs que d'autres certifications.
Ah oui, et savoir l'impact d'un produit sur l'environnement, en fait, ce n'est pas facile, comme on vient de le dire. Alors, l'étiquetage carbone pourrait faciliter grandement la vie à ceux qui font attention à avoir une alimentation plus verte, en fait.
Oui, voilà. Bon, après, le problème, c'est aussi la multiplication des certifications.
On est d'accord. Mais par exemple, c'est justement ça ce qu'on a vu apparaître en janvier avec l'EcoScore en France, une méthodologie indépendante en open data créée par un collectif d'acteurs engagés dans l'alimentation comme Foodchehi qu'on a évoqué, mais aussi Yuka et Marmiton. C'est un peu à la façon du Nutri-Score qui identifie l'impact santé des aliments. Mais l'EcoScore présente une note donc des A pour les produits à l'empreinte carbone la plus faible, à E, et un code couleur qui va du vert au rouge.
Ouais, mais du coup, ça fait effectivement un label de plus. Hein. Donc, on va avoir l'EcoScore, le Nutri-Score.
Oui.
C'est les acteurs qui étaient présents lors de cette table ronde. Eux, ils ont fait le même constat. Hein. Donc,
oui.
C'est pas un constat que franco-français. Hein.
Oui,
on tient à le dire.
D'accord.
Il y a beaucoup trop de certifications et de logos en tout genre sur les produits agroalimentaires. On en trouve parfois jusqu'à 4 voire 5 sur un packaging. Donc, nous, en tant que consommateurs, le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière ces labels, ces certifications.
Trop de labels, tu les labels, en fait.
Voilà.
Nous on a fait l'exercice en fait je pense souvent au bio par exemple, rien que dans les bio, il y a les labels européens, il y a les labels français, il y a Déméter, il y a Nature et Progrès, il y a Biopartenaire, il y a Biocohérence. C'est vraiment difficile de s'y retrouver, de savoir à quel label s'est fié, en fait.
Oui, mais par contre, selon Ben Fishman, qui était présent, qui est co-directeur de CGC Ventures, et pour lui, le score carbone, c'est vraiment la prochaine grande innovation pour le consommateur. Parce que il part du principe qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent savoir de plus en plus combien de carbone a été utilisé pour produire tel aliment ou tel article qu'ils achètent. Est-ce qu'il est à émission neutre? Est-ce qu'il a été réduit de 25%, de 50%? Donc ça, c'est des infos que le consommateur veut aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'il dit vouloir. Et du coup, d'après une étude aussi qui a été publiée dans la revue académique Food Policy, les marques qui s'empressent, enfin qui sont les first players, les premiers à apposer un label carbone sur les emballages, elles pourraient être récompensées beaucoup plus rapidement par les consommateurs qui se tournent peu à peu vers des produits à moindre impact écologique.
Oui, ça ne m'étonne pas. Les marques qui s'empressent d'apposer l'étiquetage carbone sont souvent celles qui proposent des produits à faible impact écologique. Elles ont tout intérêt à afficher sur leur packaging car c'est un argument de vente très puissant aujourd'hui.
Oui, c'est... moi j'ai eu l'expérience en Australie par exemple, ils ont un score... l'Australian score, enfin c'est un truc.
D'accord.
C'est un score comme ce que lance Intermarché, le Franco score, où en fait tu vois combien de dans ton produit transformé, combien d'ingrédients viennent du pays.
D'accord.
Tu vois, donc c'est aussi une autre idée, autre manière de voir les choses. Mais selon l'article, là, il y a déjà de nombreux acteurs du secteur de l'alimentation des boissons qui répondent à cette demande et qui vont s'en servir justement pour se démarquer de la concurrence. Hein, c'est ce que disais avec Alpro, là, quand on regarde les panneaux de pub dans les rues de Paris. Il y a Horizon Organic, qui est une filiale de Danone aux États-Unis, qui communique sur ses efforts pour devenir positif en matière de carbone à horizon 2025. Il y a Bright Future Foods qui est une filiale de Post Holdings, qui c'est aussi lui. Eux, ce qu'ils ont fait, ils sont associés avec une société qui s'appelle Evergreen pour créer des crackers qui s'appellent Early Out Cloud. Wow. Et ils appellent ça le tout premier snack climatiquement positif.
Climatiquement positif, j'adore.
Voilà, traduction littérale, hein, évidemment.
Mm-hmm, bien sûr.
Et l'article précise aussi que finalement, même les gros acteurs comme Unilever, Mondelez, voire une start-up comme Oatly, qui est connue pour son lait d'avoine qui vient d'entrer en bourse, là, eux, ils pratiquent tous cet étiquetage carbone.
Oui, bah pour certains, il va falloir faire un peu des nettoyages avant de pouvoir publier la
réponse. C'est sûr.
D'ailleurs, Olivier, le 9 mars dernier, en fait, les députés français ont donné le feu vert à la mise en place d'un étiquetage sur les produits, appelé donc le score carbone sous la forme d'une expérimentation. Et dans les années à venir, le score carbone deviendra même obligatoire. Donc finalement, c'est une très bonne nouvelle pour nos amis et toi et moi, climatariens. On continue avec un focus sur les marchés des œufs par LSA. Les œufs séduisent toujours les Français. Pochés, brouillés, mollets ou à la coque, les œufs font partie des grands gagnants dans la pandémie du Covid-19.
Oui, on a tendance à beaucoup parler des véganes hein, ces derniers temps, mais finalement, on se rend compte que les Français sont des gros consommateurs d'œufs.
Ah, on est bien hein, d'accord.
pendant le premier confinement de mars 2020, souvenez-vous, hein, on s'est tous mis à faire des gâteaux et tout.
Moi, je ne faisais pas, je me suis mis là pendant les confinements.
Ouais, tu vois. Et du coup, en conséquence, bah, les ventes d'œufs, elles ont explosé. Hein.
Ouais.
Il s'est vendu entre mars et avril 2020, il s'est vendu 611 millions d'œufs.
Énorme.
A priori, c'est 185 millions de plus qu'à la même période en 2019.
C'est énorme.
Donc c'est énorme. Hein. Il a fallu que la production elle suive derrière. Les poules, elles ont dû pondre à mort. Hein.
les pauvres.
Au global, sur toute l'année 2020, la France, elle a produit 15,7 milliards d'œufs.
Waouh.
En hausse de 4,9%.
C'est gigantesque,
en fait.
C'est,
quand tu penses
c'est
énorme.
À la quantité
hein.
d'œufs par personne, c'est un truc des malades, en fait. Et ça ne m'étonne pas. C'est comme tu disais, en fait, ça, la pandémie était un facteur déclencheur du retour des Français en cuisine. Et les œufs sont utiles pour un bon nombre des préparations de base, en fait. Parce que, oui, on aime bien manger des œufs les matins, mais aussi, c'est un ingrédient qu'on utilise en pâtisserie. Et les gâteaux, comme tu as évoqué, ont sans doute été un des petits plaisirs permettant aux Français de garder le moral pendant les confinements à répétition.
Mais surtout, comme l'explique LSA, 90% des consommateurs qui ont augmenté ou maintenu leur niveau d'achat d'œufs pendant la crise envisagent de conserver ce niveau-là.
Ah.
Donc ça veut dire que les gens vont continuer à acheter beaucoup d'œufs. Et les ventes d'œufs, ça se vérifie finalement sur ce début d'année 2021,
oui.
Avec une hausse de 4% sur les mois de janvier et février par rapport à janvier-février 2019.
Intéressant.
Hein, maintenant, les comparaisons, il faut les faire par rapport à 2019.
Oui, oui.
Et du autre fait notable, c'est sur les deux premiers mois de 2021, les ventes d'œufs standard, elles sont en baisse de 13% par rapport à 2020.
D'accord.
Alors que tous les œufs qui sont des œufs d'élevage alternatif, donc élevage au sol, c'est en progression de 30% en volume, ceux de plein air, c'est 15,8%, les bio, c'est 3,8%, les labels rouges, 2%. Et l'article, lui, il précise aussi que la filière, elle a atteint plus rapidement que prévu son objectif d'avoir une poule sur deux élevée en mode d'élevage alternatif, hein, tout ce qu'on a vu là.
Oui, oui.
Et initialement, c'était prévu pour 2022 et l'objectif a été atteint dès 2019.
Intéressant. Sauf que par contre, certaines alternatives, en fait, sont à leur tour contestées, Olivier. Ces derniers mois, des associations antispécistes prenant la fin de l'élevage, comme la L214 ou certaines ONG, se sont attaquées à l'élevage au sol, qui est une des solutions alternative à la cage, choisie assez largement par la profession ces dernières années. Pour les plus fervents défenseurs de la cause animale, si les poules ne sont plus enfermées dans les cages et ont accès à des perchoirs, les conditions d'élevage liées à ces codes 2, le code qui est inscrit sur les œufs, sont loin d'être optimales, notamment car il autorise 9 poules au mètre carré et n'impose pas d'accès des volailles à l'extérieur. Et c'est important de souligner que ces modes de production pèsent désormais 11% des œufs vendus en grande surface, soit deux fois plus qu'en 2019.
Et par contre, ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est toutes les innovations, hein, tous les progrès qui ont été faits en matière de bien-être animal. Hein. Aujourd'hui, pour éviter notamment le broyage des poussins, alors on ne va pas vous expliquer tout ce qui est en cause avec le broyage des poussins, mais il y a des solutions maintenant qui existent comme le sexage in ovo, des élevages de mâles souches actuels ou encore l'élevage de mâles souches mixtes à sélectionner.
Pour éviter
donc la filière a aussi fait des progrès de ce côté-là.
Bien sûr.
Par contre, ce qu'elle précise, c'est que toutes ces innovations, elles ont un un coût. Hein, et le coût estimé, c'est à peu près 75 millions d'euros par an pour la filière.
Même, voire plus, parce que pour les éleveurs, cette nouvelle remise en cause d'élevage au sol est inquiétante. Ils ont consenti déjà des gros efforts d'investissement lors de la dernière décennie. Hein. 1 milliard d'euros en 2012 pour émettre aux normes européennes leurs cages, puis 500 millions d'euros pour sortir des élevages en batterie. Il ne leur reste plus beaucoup de marge de manœuvre financière. Ces poids d'investissement n'est pas sans conséquence sur la filière. Si on veut des élevages plus qualitatifs, il va falloir aussi aider financièrement les éleveurs à supporter les coûts. On continue cet épisode avec une humeur dans l'univers de la haute gastronomie qui a bien été confirmée. Alain Ducasse et les Plaza Athénées cessent leur collaboration les 30 juin prochains. C'était sur Le Figaro. Alain Ducasse et les Plaza Athénées, c'est fini. It's the end, Olivier. Ducasse quitte les palais de l'avenue Montaigne face à mes anciens bureaux chez LVMH.
Ah, ils sont bien placés, tes anciens bureaux. Ouais. Et oui, le chef Alain Ducasse, il travaillait en collaboration avec le Palace depuis 2000. Et en fait, c'est le Plaza qui n'a pas renouvelé le partenariat. Et oui, donc, oui. Il s'arrête dans un bon mois, on va dire.
Oui, mais 21 ans, c'est quand même pas mal. Hein. C'est une belle collaboration.
C'est une belle collab.
Ouais, et c'est justement au Plaza que Ducasse avait développé depuis 2014, en fait, les concepts avant-gardistes de naturalité autour de la trilogie légumes, céréales, poissons. Alain Ducasse visait à proposer avec cette cuisine une alimentation, et vise toujours en fait, plus en accord avec la nature et plus saine, qu'il a même décliné en restauration rapide avec les concepts naturalistes.
Oui, bon, Ducasse n'a pas rompu tous les ponts avec le groupe qui détient le Plaza Athénée, le groupe Dorchester Collection.
Collection, oui.
Parce que dans le groupe, il y a aussi le Meurice, hein, l'hôtel parisien. C'est un palace aussi, d'ailleurs, je crois. Mm-hmm. Et Ducasse va continuer de superviser toute la partie haute gastronomie de l'établissement. Et les fourneaux sont confiés au chef 2 étoiles, Amaury Bourg. Mm-hmm. Et le chef, il conserve également les fourneaux londoniens de son resto, Alain Ducasse, au Dorchester, un hôtel.
Oui, on n'est vraiment pas inquiet pour Alain Ducasse. Hein. Même s'il quitte les cuisines du Plaza, il lui reste encore pas mal des restaurants. Il détient toujours les records du nombre d'étoiles Michelin détenues par un cuisinier. C'est avant tout un homme d'affaires qui a mis en place depuis plus de 30 ans un modèle d'entreprise qui repose en grande partie sur les contrats des prestations de services signés avec des hôtels de luxe. Les palaces lui confient les clés de leur cuisine, de leur cave à vin, de leur espace de restauration. Et Alain Ducasse y place ses cuisiniers, ses méthodes et même les produits à son nom, comme son chocolat et ses cuvées de champagne.
Ouais, la question maintenant que tout le monde se pose, c'est qui va prendre la suite d'Alain Ducasse.
Qui va être les prochains?
Alors, il y a beaucoup de bruit sur le fait que ce serait Jean Humbert qui reprendrait le flambeau. Alors, ouais. Jean Humbert, c'est un peu plus bling-bling.
Oui.
C'est le cuisinier des stars, un peu. Hein.
Moi, je suis un peu étonné par ses choix. Surtout que Jean Humbert est très proche d'LVMH et ses hôtels aussi. Mais ça pourrait peut-être aider les Plaza à attirer une clientèle plus jeune et branchée. Les humeurs parlent aussi de Jean-François Piège, qui a été chef au Plaza il y a quelques années, et des Pierre Hermé à suivre alors, et on aura plus d'informations sur les semaines à venir. De son côté, Alain Ducasse a d'autres projets en cours, évidemment Ducasse. Il s'est associé avec Stéphane Courby pour le nouvel hôtel qui doit bientôt ouvrir ses portes au château de Versailles dans les pavillons du Grand Contrôle. Il paraît que les clients pourront même avoir droit à un dîner du même standing que les rois de l'époque.
Ah bah écoute, on va être on va aller tester. Il a aussi annoncé l'ouverture après l'été d'une cantine un peu branchée rue de Paradis, hein, c'est la rue Branchouille
du 10e.
Et moi j'ai vu aussi qu'il va ouvrir une glacerie à côté de sa chocolaterie rue de la Roquette.
Les Glaces Ducasse.
Ça doit être ça. Et du coup, oui, bah, il est plein, il fourmille de projets. Hein,
on n'est pas inquiet pour Ducasse. On change maintenant des sujets et des continents avec un article du Wall Street Journal qui nous parle de la nouvelle série Netflix sur l'alimentation. Netflix High on the Hog centers Black cooks in the story of American food. La série High on the Hog de Netflix place les cuisiniers noirs au centre de l'histoire de la cuisine américaine. Ça a l'air très sympa cette série, Olivier.
Oui, c'est une nouvelle série en 4 épisodes, je crois, qui est consacrée à l'histoire de l'alimentation aux États-Unis. Mm-hmm. Et la série, elle est basée sur le livre « High on the Hog, Culinary Journey from Africa to America mm-hmm. » de l'historienne de l'alimentation Jessica Harris, et qui a été publié en 2011. Donc, c'est un bouquin qui a quand même déjà 10 ans. Hein.
Tout à fait.
Mais le point de vue, je pense, est assez intéressant.
Oui, effectivement, cette historienne, en fait, elle inspire beaucoup la nouvelle génération en récontextualisant l'histoire qui est souvent transmise via un prisme ethnocentré nord-américain. C'est la cuisine afro-américaine racontée par les afro-américains.
Oui, comme l'explique l'article en introduction, pendant des années, l'histoire de la nourriture américaine a été principalement racontée comme une histoire de nourriture de blanc.
Ah oui.
L'objectif de la série, c'est donc d'amplifier quelque part l'œuvre de Jessica Harris, de mettre en lumière un riche héritage d'ingéniosité culinaire qui continue d'évoluer hein, dans les foyers, les cuisines, les restaurants en Afrique et aux États-Unis.
Tout à fait. On apprend notamment les rôles des Afro-Américains dans les commerces des huîtres et aussi l'influence de cette culture sur des plats typiques comme les fameux mac and cheese que moi, personnellement, j'adore.
Et dans le premier épisode, c'est Jessica Harris elle-même hein, avec l'animateur Stephen Satterfield.
Sympa.
Qui vont voyager au Bénin.
Uh-huh.
Donc, ils y suivent une formation sur le riz et le gombo dans un marché local. Dans l'épisode suivant, Satterfield retourne aux États-Unis. Il va inviter les téléspectateurs à examiner le savoir-faire africain, le travail forcé qui ont permis de construire la lucrative industrie du riz dans les deux États de Caroline, hein, Caroline du Nord, Caroline du Sud.
Bah, écoute, c'est très inspirant de voir à quel point l'alimentation infuse en fait, dans les sociétés et les cultures et l'influence de, de l'immigration africaine dans la cuisine américaine. Au Brésil, mon pays d'origine, c'est exactement pareil en fait. Les plats les plus excitants de notre gastronomie ont souvent une origine africaine. Et on finit avec un dernier article sur Le Parisien qui nous parle d'une nouvelle initiative. Un repas, un euro, des recettes des cuisines simples, saines et pas chères qui cartonnent sur Twitter. Ce n'est pas toujours très simple de trouver des idées pour cuisiner tous les jours, surtout pour les jeunes qui ont un budget très serré. Et là, on ne peut pas faire mieux, Olivier. Un repas à un euro.
Ouais, c'est un compte Twitter qui a été créé en avril dernier et qui compte déjà quasiment 40 000 followers.
Hein. Gros carton.
Et, énorme phénomène, hein. En tout cas, moi je l'ai vu assez rapidement et je le vois croître très rapidement. Donc, je pense qu'il a une grosse communauté. Et derrière ce compte, en fait, se cache Marina, qui est une étudiante en psychologie. Et donc, l'article nous explique un peu comment elle a eu l'idée de monter ça. Hein. En fait, elle propose des menus complets qu'elle dénomme anti-charge mentale et qui sont prévus en fait pour une semaine entière. Donc, ils comprennent 4 repas, le petit déjeuner, le goûter, le dîner, pour tous les jours de la semaine et toujours 1 euro maximum le plat.
C'est une super idée. 1 euro pour un repas, ça fait un budget de moins d'une 20aine d'euros par semaine. C'est hyper intéressant. J'ai vu qu'un de ses plus gros succès, c'est une brioche au chocolat à la poêle pour à peine 12 centimes.
Oui, a priori. Alors, je n'ai pas essayé la recette hein, pour être honnête.
Moi non plus,
hein,
mais je pense que je
vais mettre. Mais en tout cas, il y a une grosse communauté d'étudiants qui suivent ces recettes et qui s'y sont mis. Hein, et du coup, elle s'adapte aussi aux différents régimes des uns et des autres. Hein, et elle explique en fait que derrière sa démarche, elle veut redonner envie aux gens de cuisiner autre chose que des pâtes aux gruyères, de leur redonner le goût pour la cuisine variée et à moindre coût.
Sympa. Et en plus, elle s'adapte au régime varié avec des plats véganes et des recettes pour les personnes avec les allergies alimentaires. Mais surtout, c'est un super plan pour les étudiants dans les petits studios qui n'ont pas une cuisine toute équipée.
Oui, bah d'où les choses qu'elle propose justement à faire la poêle plutôt qu'au four. Hein, parce
sûr.
Que les étudiants, ils n'ont pas
ont
tous un four.
Ils ont une plaque à cuisiner. Quoi.
Voilà. Et du coup, ça permet aussi quelque part de lutter contre la malbouffe. Ça remet les étudiants. Ça leur donne envie. Oui, vraiment, je pense qu'il y a des étudiants qui se sont remis à cuisiner. Qui partagent leurs photos, leurs vidéos avec elles.
Franchement,
il y a une vraie communauté qui s'est créée. Moi, je trouve ça assez sympa.
Cuisiner un repas à la maison pour 1 euro, c'est beaucoup mieux qu'aller chez McDo. Quoi. Et ça permet aussi de lutter contre la précarité alimentaire qui touche de plus en plus des mondes et beaucoup de jeunes. Et apparemment, ça marche parce qu'elle reçoit beaucoup de témoignages pour la remercier.
Ouais, donc du coup, si vous avez des étudiants dans votre entourage, n'hésitez pas à leur conseiller de suivre ce compte. Hein. Je crois qu'elle a un compte Instagram aussi.
D'accord.
Ça doit être le même, un repas à 1 euro. Et du coup, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée.
C'est une excellente idée. On va continuer sur les réseaux sociaux, Olivier, avec une question qui fait débat. Alors, Olivier, tu fais partie de la team opercule ou sans opercule?
Ah, moi, je suis sans opercule.
Ah, tu vois, ça, moi, je suis... Ça dépend.
Ça dépend. Ouais, c'est un tweet d'Étienne Dorcé. Alors, c'est un tweet un peu humoristique.
Oui.
Et la question, c'est lorsque vous ouvrez une nouvelle bouteille de lait, laissez-vous l'opercule métallique pour le remettre en place maladroitement à chaque usage ou l'arrachez-vous sauvagement? Moi, je l'arrache.
Moi, ça dépend de l'humour, en fait, du jour. Voilà. Olivier, on finit cet épisode des It's Business. C'était un plaisir comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Salut Daniel, au revoir à tous.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt.